Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Nouvelle école doctorale au Mali, quel apport à l'enseignement supérieur et à la recherche? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. L'école doctorale publique du Mali devrait être opérationnelle au cours de cette année universitaire 2022-2023, selon ses responsables. Cette nouvelle académie a vocation de former les futurs docteurs dans différentes disciplines. Mais pour certains, le coût pour bénéficier de formation dans cette école est énorme, particulièrement les frais de soutenance que certains universitaires ont dénoncés. Quelles sont les conditions d'accès à cette école doctorale? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus à l'enseignement supérieur? Le Mali a-t-il les moyens d'assurer une formation de qualité dans cette école? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui avec comme invités qui ne sont plus à présenter, professeur Brima Elidiko, membre de la commission d'opérationnalisation de la nouvelle école doctorale. Bonsoir, monsieur Diko.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
À ses côtés, professeur Mourike Dambélé, il est pédagogue. Bonsoir, monsieur Dambélé.
Bonsoir.
Docteur Ali Tunkara, il est universitaire, il est sur ce plateau avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Mariam Koulibaly, je suis à la présentation.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. D'abord, nous allons suivre le reportage de Mamadou Samasekou et on se retrouve après sur le plateau.
Selon les responsables, l'école est réservée aux détenteurs d'un master, qu'ils soient étudiants ou professionnels. S'il n'y a pas de limite d'âge pour les candidats, les coûts d'inscription varient entre 75 000 et 100 000, respectivement pour les étudiants et les professionnels. Brima Elidiko, membre de la commission d'opérationnalisation de la nouvelle école doctorale.
C'est une école qui a vocation à former des futurs docteurs dans différentes disciplines. Donc il y a à la fois les copies des attestations, depuis le bac jusqu'au master, mais aussi le relevé de notes qui accompagne ces attestations-là, plus le projet.
Des universitaires indiquent que la mise en place de cette nouvelle école va bien profiter au Mali. Docteur Fodié Tandjougoura, enseignant-chercheur.
Quand quelqu'un est formé en Chine, en France ou au Cuba, il peut être tenté de rester. Mais s'il est formé sur place, eh bien on a beaucoup plus de chances de récupérer cette main-d'œuvre. Parce que le Mali perd beaucoup de ses talents qui vont étudier à l'étranger et qui ne retournent plus. Et je pense que c'est ce risque qui s'amenuise progressivement. Et j'ose espérer que dans les années à venir, on ne sera pas confronté à ce problème de fuite des cerveaux.
Selon les responsables, le dépôt des dossiers débute le 29 décembre 2022. La date limite est fixée au 30 janvier 2023.
Alors, monsieur Diko, vous venez d'écouter ce reportage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà c'est quoi une école doctorale?
Bien, merci bien pour l'invitation qui nous permet, je pense, d'approfondir un peu tout ce qui a été évoqué autour de cette question. Une école doctorale, c'est une école qui forme des futurs docteurs. C'est-à-dire que, vous savez, l'université repose sur trois piliers de formation depuis l'avènement du système licence, master, doctorat, qu'on appelle généralement les LMD. La licence, donc bac plus 3, le master bac plus 5 et le doctorat bac plus 8. Donc, une école doctorale forme les détenteurs de master qui ont envie de poursuivre leur carrière dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Donc, durant trois années, durant six semestres, ils sont formés à... sur différentes méthodes de recherche et ensuite ils prennent un sujet, travaillent sous la houlette d'un encadreur et à l'issue de trois années, ils déposent un document qu'on appelle la thèse de doctorat qui est évalué aussi par les rapporteurs et à l'issue d'une soutenance, ils deviennent des docteurs, donc quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme de bac plus 8.
Est-ce la première école doctorale au Mali?
Pas du tout, ni d'ailleurs la seule. C'est-à-dire que il y a l'ISFRA, l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, qui a été créé, je pense, autour des années 1937. Mourike pourra corriger cela et qui a formé les premiers docteurs au Mali. Donc, qui était un institut qui formait des docteurs pratiquement dans plusieurs disciplines. Et avec l'évolution, vous savez, on est passé des grandes écoles à des universités. Donc l'évolution normale, c'est de créer des écoles doctorales au sein des universités. C'est pour ça que les trois dernières années de réflexion ont commencé. Et un ensemble de facultés qui est regroupé au sein de l'Université des sciences et techniques de Bamako, qui regroupe la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences et techniques, l'IPR de Katibougou, ont décidé de créer leur école doctorale. Donc, qui est en fait la nouvelle école doctorale. Mais l'ISFRA dont j'ai parlé tout à l'heure aussi a été remplacé par un institut de pédagogie universitaire donc qui a vocation à former des pédagogues. Et donc, cela crée finalement une sorte de vide concernant la formation des diplômés en sciences humaines et sociales. et aussi en sciences économiques. C'est pour ça que l'État, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, a décidé par décret du 31 décembre 2021 de créer aussi une école doctorale qui s'intitule Droit, Économie, Sciences sociales, Lettres et Arts. Donc c'est comme si finalement nous avions une école doctorale ancienne qui a été fermée, restructurée pour créer un institut de pédagogie universitaire qu'on appelle IPU, qui avait donc les doctorants de l'ISFRA qui continuent à les encadrer. Et je pense que les derniers vont soutenir en fin 2023 ou éventuellement début 2024. Donc pendant ce temps, il a fallu créer des écoles doctorales au sein des universités qui sont désormais nombreuses au Mali.
Déjà, est-ce qu'on sait où est-ce que cette nouvelle école doctorale sera située?
Alors, c'est une bonne question. Le bâtiment physique, pour le moment, la décision n'a pas été prise. Mais ce qui est important, c'est une école doctorale qui regroupe trois universités, à savoir l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, qui est située à Kabbalah, donc physiquement à Kabbalah. Vous avez l'Université des Sciences Juridiques et Politiques sur la colline de Badalabougou, une partie, et sur la route de Koulouba, donc la Faculté des Sciences Administratives, la Faculté des Sciences Politiques. Il y a même une partie à Sogonigo, parce que l'université est un peu décentralisée, se retrouve un peu partout. Et vous avez aussi l'Université des Sciences Sociales et de Gestion, qui regroupe la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, qui regroupe aussi l'UG, l'Institut Universitaire de Développement Territorial, et la Faculté d'Histoire Géo. Alors, pour le moment, les réunions des commissions se tiennent sur la colline de Badalabougou. Un petit bureau a été aménagé, mais qui n'a pas encore été mis à disposition. Donc, je pense que la décision sera prise par qui de droit lorsque toutes les conditions seront réunies.
Monsieur Moriquet Dambélé, vous êtes pédagogue. Qu'est-ce que vous pensez de la création de cette nouvelle école doctorale?
Merci bien, Mariam. Je remercie mes collègues qui sont autour de moi pour débattre de ces questions-là. Aujourd'hui, je crois qu'il est extrêmement important de repenser notre enseignement supérieur. Et l'école doctorale s'inscrit dans cette restructuration de notre université. Vous le savez, l'université a existé au Mali depuis 1996. Donc plus de 25 ans, il faut quand même former des personnes qui vont enseigner à l'université. Parce que les docteurs sont des gens qui vont enseigner à l'université. Et c'est l'université elle-même qui forme les personnes qui vont enseigner à l'université. Il est important que cette école doctorale soit, parce que le besoin se fait sentir. Je crois que mon collègue disait tout de suite que l'ISFRA, c'était la première structure qui formait, mais avec vraiment beaucoup de difficultés. Au départ, c'était en 1972, hein, bon, donc on a créé. Il y avait quand même un petit nombre, on accédait à la formation post-universitaire. Maintenant, cette structure qui existait a changé de perspective de formation, donc a laissé un grand vide. Maintenant, il fallait que les universités se réunissent pour pouvoir réfléchir comment remplacer la formation qui était donnée par l'ISFRA. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une bonne opportunité pour que les Maliens se forment au Mali, comme votre interlocuteur a dit un moment.
Alors, Monsieur Ali Tunkara, vous êtes universitaire. Avant d'arriver à la question qui fâche et qui fait mention du prix des frais alloués à la soutenance, déjà, qu'est-ce que vous pensez des propos que vos co-débatteurs viennent de prononcer?
Ils sont pertinents, ces propos, mais sauf que, bon, ils n'ont pas sérieusement interrogé les dysfonctionnements qui pourraient être observés de l'Institut de formation en passant par l'IPU. Et objectivement, parce que le docteur Diko a bien fait de le rappeler quand même, ça fait des années que le Mali forme des docteurs dans des domaines tout à fait pluriels, même si lorsqu'on parle des réformes, elles apparaissent comme pertinentes. Mais sauf que les gens interrogent moins quelles sont les raisons qui sous-tendent les différentes réformes qui sont brandies ça et là. Je serais tenté de dire que créer une école doctorale, c'est une bonne chose quand on se réfère à des éléments factuels, mais sauf que quand j'introduis le contenu, en quoi cette appellation d'école doctorale serait différente de l'existant du point de vue du contenu à consommer et du point de vue des acteurs qui animaient ou qui animent toujours l'ancien système, qui continuent à former jusqu'ici. Donc je pense que les points qui fâchent résideraient plutôt non pas dans le format, mais plutôt dans le contenu. Et objectivement, l'appellation, ça fait, c'est tellement joli à entendre. Mais sauf que bon, je ne pense pas qu'elle a été créée à partir d'un vide, comme ça a été rappelé. Il y a un existant qui est là. Et il serait été mieux qu'on interroge les limites qui ont caractérisé l'Institut de formation l'ISFRA. C'est également qui continue à caractériser aujourd'hui l'Institut universitaire pédagogique en termes d'insuffisance, notamment. Quel type de master aujourd'hui sont admis dans l'établissement censé former le docteur au Mali? Quels sont les acteurs en charge justement de recevoir ces masters et de les former? D'ailleurs, quand vous lisez les différents textes qui régissent les deux structures qui sont les premières à former des docteurs dans les domaines comme les sciences sociales et humaines, bon. Partout ailleurs, quand vous demandez au Burkina Faso, au Niger, en France, aux États-Unis, bon, lorsqu'on parle du doctorat, prime abord, on dit quel type de master est admis, avec quelle conditionnalité en termes de rendement pédagogique. Mais bon, vous lisez la nouvelle école doctorale, bon, elle se moque pas mal de ces critères, enfin, à la lecture du document que j'ai à ma disposition. Donc, pour dire que, au-delà du sensationnel, on a créé une nouvelle école doctorale. Objectivement, est-ce que les critères académiques requis pour qu'une école doctorale soit créée, qu'on ait en moyenne 13 de moyenne en master 2 et recherche, qu'on ait en moyenne 14 de moyenne en master 2 et recherche, est-ce que tel type d'école comme école normale supérieure serait tel permis ce type de ces écoles telles que l'ENI à s'inscrire avec un diplôme obtenu à, voilà, ça sont des critères pédagogiques qui me paraissent tout à fait importants, mais qu'on soit avec l'ancien format, qu'on soit avec le nouveau format, ces critères autant pédagogiques importants sont quand même occultés sans s'intéresser au contenu financier. Donc globalement, l'idée à vider, elle est à saluer, mais lorsqu'on s'inscrit quand même dans une posture comparative entre l'existant et ce qui nous est proposé, bon, on a juste changé l'habillage, l'étiquetage, mais le contenu à consommer, il s'est même radicalisé en termes, si vous voulez.
Monsieur Diko, ouais. Le contenu a-t-il été radicalisé, comme l'a dit monsieur?
Non, en fait, disons que le questionnement est légitime, mais il est en déficit d'information. Donc c'est aussi important de le signaler, mais le questionnement reste légitime. Est-ce que c'est simplement l'appellation qui a changé? Je dirais que non, c'est assez simpliste de dire cela. C'est-à-dire qu'on prend l'ancienne structure. Qui est-ce qui encadrait les gens là-bas? Il y avait peut-être 10% des enseignants qui sont issus de la structure et affectés à l'ISFRA, et le reste, c'était des enseignants en majorité qui appartiennent aux universités qui aujourd'hui se sont regroupés pour encadrer. Ça, c'est déjà un premier élément. Et donc, ça veut dire que c'était une structure, le diagnostic a été posé par ceux qui ont fait créer l'école. Simplement, peut-être que le rapport n'a pas été rendu public et c'était peut-être bien pour des questions de traçabilité que tout le monde ait accès au même document. Mais le diagnostic, en fait, a été fait.
Donc, ces inquiétudes sont prises en compte.
Non, ces inquiétudes sont prises en compte, justement, même pour aller très rapidement, parce que c'est une question de débat, il y a un temps d'antenne. C'est que, donc, il y avait un déficit de personnel au niveau de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas actuellement. Rien que, par exemple, le département sociologie et anthropologie auquel lui et moi appartient, aujourd'hui, nous avons au moins 12 maîtres de conférences, ce qui, en fait, par le passé, n'était pas le cas. Quand vous réunissiez avant, le nombre de maîtres de conférences, même pour l'autre institut, c'est que ça dépasse largement ce nombre-là. Rien que cet exemple-là, en fait.
Donc, les ressources humaines sont disponibles.
Les ressources humaines sont largement disponibles. Ce n'est pas ça le problème. Et ensuite, les masters ont été créés par des professeurs de rang A, qui aussi sont dirigés par des professeurs de rang A, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont le grade de maître de conférence ou de professeur. Ça, c'est aussi des choses qui sont très claires. Et il a quand même fallu différentes réunions qui ont concerné les trois recteurs des trois universités, donc droit, économie et sciences humaines, qui ont fait des séries de rencontres auxquelles des rencontres ont été ajoutées les différents chefs d'établissement, donc les directeurs d'instituts et les doyens des facultés, qui ont fait des séries d'ateliers pour élaborer les premiers documents. Donc, ce n'est pas aussi quelque chose qui a été créé comme ça. Peut-être que ce qui a manqué, c'est au fur et à mesure de rendre public ces documents qui ont fait l'objet d'ateliers pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, il y a un déficit de communication, ce qui est très clair là-dessus. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est juste le nom qui a changé. Ça, c'était vraiment très réducteur. Et ensuite, le second élément, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que des laboratoires de recherche ont été créés dans l'ensemble des facultés. La faculté à laquelle nous trois nous appartenons a au moins deux laboratoires de recherche. Et à l'intérieur de ces laboratoires, il y a des équipes de recherche. Ça n'existait pas en fait avant dans l'ancien système. C'est valable pour l'ensemble des 11 structures qui appartiennent aux trois universités qui ont décidé de créer ensemble cette école doctorale. Donc c'est vraiment une évolution majeur. Et des masters qui ont été créés sont désormais rattachés au laboratoire et ces laboratoires sont rattachés à l'école doctorale. Donc on ne peut pas en fait dire que c'est stricto sensu la même chose.
Alors, monsieur et le pédagogue, est-ce que ces changements qui viennent d'être annoncés par monsieur Diko sont palpables aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Moi, je crois que je partage effectivement le point de vue de M. Tunkara. C'est-à-dire qu'au début de l'ouverture d'une école comme celle de l'école doctorale, il y a des inquiétudes qui peuvent naître ici et là, parce qu'on a l'habitude souvent de créer des choses. Bon, on ne va pas loin dans l'exécution des choses. Mais j'ai noté, après lecture des documents, deux éléments de force. Le premier élément de force, c'est la conjonction de trois universités, les ressources de trois universités qui sont mises ensemble pour construire l'école doctorale. Ça, c'est une force. Auparavant, c'est vrai que beaucoup de gens s'inscrivaient, mais ils ne s'inscrivent pas à partir des facultés. Ils s'inscrivent au nom de l'ISFRA. Les dossiers ne sont pas acheminés par la faculté et des laboratoires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux m'inscrire, je cherche un professeur qui peut m'encadrer. Je vais à l'ISFRA et l'ISFRA entraîne l'inscription. Ça, c'est important. Ça veut dire que ça se passe à deux niveaux. L'encadreur et la structure d'accueil. Mais cette fois-ci, ça passe par les laboratoires qui observent et qui envoient à l'école doctorale. Ça, c'est un processus de sélection. Et c'est extrêmement important d'en tenir compte. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est qu'il a dit un tout petit peu, on a un nombre important de maîtres de conférences, de professeurs aujourd'hui, plus qu'hier. Ça peut rassurer. Parce que hier encore, quand on cherchait quelqu'un pour encadrer, finalement, on va faire beaucoup de portes. On va taper à beaucoup de portes sans pouvoir trouver un profil adéquat. Aujourd'hui, nous avons un profilage académique assez large qui permet de prendre beaucoup d'étudiants en compte. Mais le facteur le plus important, c'est la sélection. Je crois qu'Ali s'interroge sur la possibilité de sélectionner ou la capacité à sélectionner. Cette école doctorale va gagner s'il y a une sélection. Tout le monde ne s'inscrit pas en thèse.
C'est clair.
Parce qu'on a le master, on s'inscrit en thèse. Non. Or, c'était ça le cas de l'ISFRA. L'IPU, je veux dire, dans sa nouvelle formule. Tous ceux qui ont un master, quel que soit le master, viennent s'inscrire. Maintenant, avec cette nouvelle école doctorale, en tout cas, à lire les textes, on a l'impression qu'il y aura plusieurs niveaux de sélection. Absolument. Qui vont faire en sorte que ce soit les meilleurs qui vont arriver à s'inscrire. Et probablement que les enseignants vont aider à traverser le désert de la thèse, parce qu'il y a un désert à traverser à 3 ans, à 4 ans, et c'est extrêmement important. Donc, pour revenir à ce qu'il avait, suggéré, c'était de dire, est-ce que cette école doctorale est fiable? Est-ce qu'on a tenu compte des insuffisances de l'existant? Moi, je pense oui.
Oui.
Je pense que l'ISFRA, c'était 300 doctorants. C'est trop. Une structure comme l'ISFRA ne peut pas encadrer.
Oui.
Et 300 doctorants. Et la nouvelle école doctorale qui vient, je suis avec justement quelqu'un qui a participé à la fondation, mais il faut faire en sorte que cette école doctorale ait des effectifs raisonnables, soutenables. Et j'ai vu un article qui est relatif à ça, parce qu'on dit qu'un encadreur va prendre 3 doctorants.
Ça.
Moi, je connais des enseignants qui avaient 10. Et qui oubliait même le titre de la thèse de ses doctorants. Dit, ah, toi, tu travailles sur quoi, monsieur? Ah, oui. Donc, voilà, il y avait quand même du cafouillage. Mais ces cafouillages-là, on ne peut pas dire qu'à 100% que c'est géré quand l'école ne commence pas.
Exactement.
Il faudrait commencer à recruter et à faire sortir les premiers produits pour qu'on puisse apprécier à hauteur l'école doctorale. C'est si on le juge à partir des papiers, on pourrait peut-être prendre le risque de se tromper. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être soutenir cette école doctorale. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais à regarder les textes, c'est les mêmes textes que les pays de la sous-région. J'ai été formé à Dakar, je connais le système burkinabé, je connais le système ivoirien. Bon, c'est vraiment la même chose. C'est les textes, en tout cas.
Maintenant, si c'est vraiment qui est un peu différent, c'est peut-être le montant que les étudiants payent à la soutenance. Je crois que le débat va tourner un peu autour de ça et on pourra donner notre point de vue par rapport à ça.
Monsieur Tunkara, est-ce que les éclaircissements annoncés par vos co-débatteurs sont jugés, vous les jugez satisfaisants ?
Bon, sont légitimes au regard du statut.
Mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Qui sous-tendent les propos.
qu'est-ce que vous en pensez déjà ?
Oui, c'est bien de ne pas tomber dans le... Enfin, je ne suis pas un charlatan non plus, donc je ne peux que m'appuyer sur des textes. À l'analyse de ce que nous avons comme consommable en termes de textes aujourd'hui, effectivement, je trouve la passerelle en toute objectivité un peu courageuse, parce que vous serez à coup sûr cet élément positif qui consiste à réunir trois universités, ce qui est même d'actualité partout ailleurs aujourd'hui. Hein. Les universités cherchent de plus en plus à évoluer au sein d'une même école doctorale, voire au sein des mêmes laboratoires. Ça, c'est un fait aujourd'hui qui est observable même dans les grandes universités à travers le monde. Maintenant, mais je pense que dire que, bon, à l'IPI, par exemple, c'est l'institution qui est en cours aujourd'hui en matière de formation de docteurs. Nous trois ici avons-nous tous participé à l'encadrement des docteurs, à des soutenances au sein de cette même institution. Et je pense que les gens se trompent beaucoup au Mali. Ce n'est pas que cette école doctorale. Lorsque vous subordonnez l'efficacité, la pertinence de quelque chose au texte, c'est là que vous passez à côté, justement. Et à la lecture des textes, même si vous lisez les textes qui régissent aujourd'hui l'existant, notamment les pays, mais ils sont impeccables du point de vue pédagogique, les exigences académiques requises pour les soutenances en termes de suivi de l'étudiant, du doctorant, en termes de recherche, la disponibilité des bibliothèques, même si virtuellement on n'a que des bibliothèques qui sont un peu dans les cieux, pour dire que en fait, les textes sont intéressants, mais ce n'est pas ça le problème. C'est comme la révision constitutionnelle, j'ai dit aux gens, vous voulez changer un existant dont vous n'avez même pas consommé les 10%. Bon, vous voyez quand même, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pour la condition, par exemple, même si là aussi, je vais fâcher les gens, mais pour dire que c'est pareil pour cette école doctorale. En fait, l'IPI n'a pas été diagnostiqué. Enfin, l'existant aujourd'hui, à mon entendement, il n'y a pas eu sincèrement une étude sérieuse pour voir quelles sont aujourd'hui ses limites. En tout cas, même si l'étude a lieu, comme l'a dit Dr Diko, je n'ai pas eu accès, effectivement, aux résultats obtenus à la suite de cette telle mission. Donc, pour dire que, et attention, Dr Damere parlait du Sénégal, du Burkina, du Niger. Et juste hier, tout près, j'ai interagi avec des collègues du gender au Niger qui viennent tout juste également de donner naissance à une école doctorale il y a à peine une semaine. De même, j'ai interagi ce matin même avec des collègues burkinabés. Donc, mais lorsque ces différents pays qui nous entourent avaient amorcé ces chantiers, il était quand même public ce chantier. Mais bon, Dr Diko me dira que ce sont les trois recteurs qui se sont réunis, ou bien les trois rectorats. Mais c'est quand même trop sérieux, une école doctorale, lorsqu'on veut lui donner une telle qualité ou un tel prestige, de les faire entre une cohorte de vieux professeurs très expérimentés, mais sans pour autant que les discussions soient portées à la connaissance des collègues anciens chercheurs dont nous avons la charge quand même d'animer cette nouvelle école doctorale. Donc, je n'ai pas dit non plus que les hommes et les femmes qui ont participé aux différentes réunions qui ont abouti à la création de cette école ne sont pas efficaces ou ne sont pas des bons pédagogues, mais je pense qu'un tel projet, partout ailleurs, dans toutes les universités sérieuses, ce n'est pas un projet clandestin, c'est un projet... Il est plus que
ça. On va donner la parole à Aïda. M. Diko. Est-ce un projet clandestin en quelques minutes?
Occulte, il faut ajouter
ça. Je pense que Ali peut-être doit veiller quand même au choix de mots. C'est-à-dire que si sa crainte peut paraître légitime, le choix de mots, à la limite, peut être souvent déplacé. Parce qu'en fait, qualifier un travail quand même qui a été collégial de clandestin, c'est quand même une insulte vis-à-vis de tous ceux qui ont travaillé sur ça. Par rapport au collège, non, il faut expliquer que c'est un processus. La création d'une école partout a été un processus. C'est toujours un processus. Quand c'est un processus, ça veut dire que ça commence à un moment donné. Et nulle part, que ce soit l'école doctorale ou autre projet, vous ne verrez tout le monde associé dès le début à l'élaboration d'un projet. Les pédagogues sont là. Ce n'est jamais le cas. C'est toujours la hiérarchie qui commence par faire les réunions. Ensuite, on met en place des commissions qui travaillent. C'est toujours comme ça. Que ce soit la Constitution, que ce soit n'importe quel texte, c'est toujours un comité restreint qui travaille. Il n'y a jamais eu de clandestinité dans l'élaboration des textes de l'école doctorale. C'est d'abord quelque chose qui engage les trois rectorats. Et il va de soi que les trois recteurs fassent des séries série de réunions pour accorder les violons. C'est à partir de là qu'il y a eu d'autres ateliers. Ces ateliers ont regroupé qui ? Vous savez, quand on dit trois universités, c'est 11 structures qui sont à l'intérieur de ces trois universités. Et tous les chefs d'établissement, c'est-à-dire les doyens des facultés, parce que les facultés sont dirigées par des doyens, et les instituts sont dirigés par des directeurs, ont été associés à ces réunions. Ils ont fait des séries d'ateliers qui sont les chefs. Et on ne devient pas doyen par hasard, on ne devient pas directeur aussi comme ça. Donc c'est des gens aussi qui ont la même capacitation que lui, voire plus que lui en termes d'expérience, et qui ont travaillé sur ça, dont le travail doit être salué, qui ont fait des rapports, qui ont produit des rapports. Et suite à ça, le processus a continué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place la commission de personnalisation. La commission de personnalisation de l'école doctorale est composée, ça a été mise en place fin novembre 2022, de 6 personnes. Les 3 vice-recteurs, les vice-recteurs, par définition, ce sont les directeurs des études. Aussi qu'ils ne sont pas choisis par hasard comme ça. Et ensuite, un point focal par université. Moi, sur le point focal de mon université, j'ai le grade de maître de conférence, donc de rang magistral comme Ali, comme Mouriquet et comme d'autres. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais de toute façon, on choisit une personne. Donc, 3 points focaux qui ont travaillé aussi sur la base des textes que d'autres ont élaborés, qui sont aussi accessibles. Hier, tout près, d'abord vendredi, les points focaux de l'Université des sciences juridiques et politiques ont rencontré les chefs de structure au niveau de leur université, à savoir les doyens, les directeurs d'instituts, les responsables de laboratoire, les responsables de master. Ça, c'était vendredi passé. Au même moment, les points focaux de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako ont rencontré aussi les chefs d'institution et de la structure. Kabbalah étant loin, vendredi, c'est pratiquement vide. Nous, hier, vous allez pouvoir faire le reportage à Kabbalah si vous voulez. Nous avons rencontré d'abord pendant 2 heures d'horloge les responsables de master dans notre faculté, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, les doyens des facultés, les responsables de laboratoire et les chefs de département. Parce que les facultés aussi, c'est ça la hiérarchie. Et la même chose, de 11h à 13h, nous avons fait le même exercice à la faculté de lettres, qui est membre de notre structure. Et à ces rencontres, ont participé les directeurs d'instituts. Chez nous, c'est l'Institut Confucius et l'Institut, ce qu'on appelle l'UIT, l'Institut de la technologie. Donc, pour leur présenter les textes qui leur avaient été envoyés par voie hiérarchique par les recteurs, ils ont reçu l'ensemble des documents. Quand les doyens ont reçu le texte, les doyens, c'est ça l'administration, le recteur envoie aux doyens, le doyen envoie au vice-doyen, qui envoie au secrétaire principal, qui doit envoyer à son service de scolarité, aux comptabilités. Donc hier, c'était le point, pour faire le point. Est-ce qu'ils ont envoyé à tout le monde ? On a vu qu'il y avait des limites dans l'envoi de ça, et ils se sont engagés à faire ce travail. Donc c'est un processus. Il est prévu du 17 au 19 janvier 2023 de rencontrer l'ensemble des professeurs de l'ensemble des 3 facultés. Donc, qui ont au moins un rang magistral. Donc, c'est un processus qui permettra à n'importe qui. Lui, Ali, a reçu les documents. Mouriquet a reçu les documents. En fait, chacun, aujourd'hui, a pris connaissance des documents, même si les ateliers vont continuer à se faire pour pouvoir mettre en place là. Juste pour finir là-dessus.
Et les prix ? Et les prix ?
Non, mais justement, pour finir là-dessus.
On a peu de temps, monsieur Dugou.
Oui, on a peu de temps. Oui. Les prix ont été, en fait, fixés par la conférence des recteurs et des chefs d'établissement. C'est-à-dire que les prix ont été fixés de commun accord avec les doyens des facultés, avec les directeurs d'instituts et les rectorats. Quand la commission de personnalisation est venue, son travail a été d'élaborer, en fait, le communiqué, l'avis que les gens ont vu, la charge de thèse, le carnet de la thèse, etc., pour pouvoir mettre en route. Donc le travail de formation, de sensibilisation, en fait, quelque chose qui va venir. Voilà.
Alors, monsieur Mouriquet Dembélé,
oui,
il y a eu des tensions ou bien des remous par rapport à la fixation du prix, notamment celui de la soutenance. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, madame.
Des frais d'inscription, oui. Mais c'est la soutenance qui a fait beaucoup de salive.
Oui. Il faut... Madame, il faut remercier les voix discordantes.
Oui,
bien sûr.
Quand c'est l'université, ça.
Absolument.
C'est la contradiction, la discussion. Et c'est de là où jaillit la lumière.
Absolument. On est d'accord.
Et je suis tout à fait d'accord que des gens disent que non, on n'est pas d'accord.
Oui.
Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'il y a ça, il y a ça. Cette discussion-là doit être maintenue et renforcée. Et la presse est un élément important pour diffuser la contradiction, la discussion autour de choses très importantes qui engagent la vie de la nation. Donc ça, c'est important. Le deuxième élément important, et Ali l'a dit un tout petit peu, c'est-à-dire que quand on prend les papiers, on peut dire que c'est bon, mais l'application, on peut s'en douter, comme on en a déjà connu.
Donc là, on partage ça, mais ça, ce serait un procès qui va venir. Et comme Ali est un acteur du système, ses idées peuvent nous aider à améliorer le processus. Je ne dis pas que l'école doctorale qui est en gestation est une école doctorale qui n'a pas de reproches. Il y a beaucoup de reproches, mais progressivement, on pourra les résorber de manière constructive. Ça, c'est extrêmement important. Pour revenir au prix, je crois que les prix, ce qui fâche un tout petit peu, c'est les prix liés à la soutenance. Sinon, les autres prix, là, c'est les mêmes prix à Dakar, à Abidjan. Moi, j'ai payé 150 000 hein, pour les frais pédagogiques. Moi, je fais ma thèse à Dakar et j'ai payé les 75 000 francs pour les frais administratifs. Donc,
Abidjan est plus cher que le Mali.
Oui, Dakar est un peu plus cher que le Mali, un tout petit peu. Ah. Mais en fait, là, ce que moi, j'ai compris, c'est que les universités, bon, s'appuyer sur les laboratoires.
Tout à fait.
Pour faire des sélections. Et les laboratoires, madame, c'est des lieux où on accompagne les étudiants. Financièrement. Moi, j'ai fait ma thèse à Dakar. J'ai eu un séjour en Belgique de 3 mois. C'est mon laboratoire qui a négocié le laboratoire d'accueil. C'est eux qui ont pris le billet d'avion. Et c'est eux qui ont assuré le déplacement. Laboratoire, vous avez dit quel changement ? Mais à l'ISFRA, il n'y a pas cet accompagnement-là, parce que ça ne s'appuie pas sur le laboratoire. Si je dois inscrire un doctorant, c'est vrai qu'ils vont payer 1,2 million. Si je dois inscrire, je dois avoir un programme dans lequel l'étudiant va s'insérer. Et ce programme-là va financer en partie l'étudiant. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, pour que vraiment, on ne recrute pas comme ça les doctorants. On les recrute en fonction de nos capacités d'encadrement et de soutien financier. Parce que nous sommes dans un pays où les étudiants sont très pauvres. Maintenant, ils sont pauvres, s'ils sont brillants, l'État a une partie, est en partie responsable de la prise en charge de ceux qui sont brillants. Mais ceux qui sont moins brillants et qui souhaitent faire la thèse à 70 ans, à 80 ans, et ils vont prendre en charge personnellement et les charges liées à la thèse. Donc, madame, voilà un tout petit peu la question des finances. Moi, je ne trouve pas ça exorbitant, mais je trouve mal d'écrire ça de cette façon. Mmh. La façon dont c'est écrit, oui, c'est ça qui fâche. On doit pouvoir dissimuler ça de manière que, à dire que les laboratoires où les doctorants sont inscrits participent à la prise en charge de la soutenance de l'étudiant. Et donc, parce que quand on voit 1,2 million, c'est plus que ça. Hein. Moi, ma soutenance a coûté plus. Parce qu'on a invité 2 étrangers, un Burkinabé et un Ivoirien. Et ils coûtaient, si c'est des billets d'avion, pour aller à Dakar, les deux, l'hôtel. Donc, ça va coûter plus cher. Plus cher que 2 millions. Hein. Maintenant, quelle est la source de financement? C'est l'État, c'est les laboratoires à partir des recherches que les laboratoires effectuent, qui peuvent être des recherches publiques, qui peuvent être des recherches privées. Moi, je vous avoue que moi, je peux payer pour mon étudiant. J'ai 2 étudiants qui sont à ma charge. Je peux payer les 2 millions. Même si c'est 2 millions, je peux payer parce qu'on a un projet qui avoisine les 120 millions. Et c'est 2 projets déjà à l'université. Donc, ce sont ces projets-là qui vont aider à financer. Ce n'est pas l'étudiant qui va enlever de sa poche l'argent pour donner, mais il se trouve dans un ancrage qui permet de le soutenir intellectuellement, académiquement et financièrement.
Monsieur Ali Tungara,
oui,
vous avez dénoncé...
L'espoir.
Oui, vous avez dénoncé il y a quelques jours les frais liés à cette soutenance-là, avec les explications que le professeur vient de donner. Est-ce que vous êtes satisfait?
Non, il est dans un optimisme prudent. Je suis très d'accord qu'il est très bien intentionné, mais sauf qu'attention, franchement... Il ne faut pas qu'on parte avec le dos de la cuillère. Dans toutes les universités, au sens propre du terme, à travers le monde, effectivement, il y a des laboratoires qui soutiennent les doctorants. Mais le soutien, il est fait aux doctorants. Il y a des spécialités où on a besoin de faire du terrain, de collecter des informations, des données. Il y a lieu d'acheter des documents, il y a lieu d'inviter justement des collègues qui sont dans d'autres pays, voire d'autres continents. Tout cela à la charge du laboratoire. Mais L'ossature de la nouvelle école doctorale, c'est l'étudiant qui est l'objet marchand. Il faut qu'on soit clair.
Alors, ça, c'est pas vrai.
C'est plus que vrai. Pourquoi c'est vrai? Attention. Quand vous prenez, je suis muni de deux textes, quand vous prenez les décrets qui fixent justement les modalités d'application du statut des enseignants, d'assistant au professeur, celui relatif également aux indemnités et aux primes. En fait, dans les contextes maliens, que disent les textes? Moi, maître de conférence, je perçois mensuellement, tous les mois, un montant, parce que ce montant m'est donné, j'encadre des étudiants, je participe à la délibération de soutenance, et ce montant m'est donné parce que je mène des recherches, je suis censé préparer mes cours.
Vous voulez réagir?
Non, j'arrive au bout de mon raisonnement. La nouvelle école doctorale, qu'est-ce qu'elle dit, noir sur blanc? L'étudiant malien doctorant, il va payer 1 200 000 pour son frais de soutenance. Ce n'est ni son laboratoire, même si c'est là l'esprit, c'est pas ce qu'on lit en français, ce n'est ni l'État du Mali. Et vous prenez les autres pays de la sous-région. Effectivement, quand des collègues vont venir d'ailleurs, ce n'est ni l'étudiant qui va supporter. Les deux collègues qui sont allés à sa soutenance n'ont pas été supportés par lui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, avant qu'on arrive au texte? Nous avons des facultés, pas toutes. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, des étudiants doivent soutenir même dans ce mois-ci, en janvier. Mais ils peinent à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur des collègues qui les demandent non seulement de supporter les billets d'avion des deux collègues de la sous-région, mais dans le même temps de payer 1 200 000.
Oui, mais ça, c'est pas la nouvelle école doctorale.
Voilà la pratique d'avoir ce qui est en cours dans cette faculté. Okay. La nouvelle école doctorale, donc, on a la monture aujourd'hui. Elle dit à l'étudiant, si les frais pédagogiques sont tout à fait raisonnables. Qu'on soit professionnel, qu'on soit parcours continu, ça, je suis d'accord. Même au Burkina, les gens payent 300 000. Ça, on est dans la fourchette. Frais soutenance est déjà payée à chaque enseignant, d'assistant au professeur. Le problème, il est là. Je me demande comment trois rectorats réunis peuvent nier que mensuellement, ils perçoivent des primes qui sont inscrites aux articles 3, 6, 12. Arrêtez quand même. Ce n'est pas l'étudiant
qui disent quoi?
Qui disent justement que chaque enseignant perçoit un montant pour encadrer. Ce n'est pas l'étudiant de payer 1 000 000. Il faut qu'on soit clair. Je pense que le collègue qui disent à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que les 1 million 200 sont perçus par les enseignants déjà mensuellement. Ce n'est même pas semestriel, hein, c'est mensuel.
Donc, Ali, tu te trompes.
Aucunement, il est de la responsabilité de l'étudiant de payer 1 200 000. Non. Tout mon problème est là. Oui. Je connais mon parcours, je connais celui des autres collègues. Oui. Si on nous avait demandé de payer, moi je fais ma thèse en France, je te dis qu'on l'a fait en France. Si on nous avait demandé de payer nos professeurs qui ont siégé dans nos sous-séances, je n'allais pas être devant vous aujourd'hui avec le titre docteur. Donc, pour dire qu'attention.
On va donner la parole à vos débatteurs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne reste plus assez de temps.
On a des marchands plutôt qui nous vendent des miracles.
Des étudiants marchands. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Et je pense que les étudiants, enfin, on n'est pas en train de marchander un peu les compétences.
Déjà, les 1 million, l'étudiant doit les payer à qui?
L'étudiant, bon, dans le texte, l'étudiant doit payer, évidemment, pour sa soutenance. Mais pour revenir à ça, moi, je crois qu'il faut être très clair. Michel Ali, moi, je prends une prime d'encadrement.
Mensuel.
Voilà.
Qui est sur mon salaire.
C'est ça.
J'encadre. Encadrer, c'est quoi? Encadrer, c'est 3 ans de travail, au moins. Et c'est lire 300, 400 pages. Et de porter des observations dans le but d'améliorer le travail. Ça, c'est le travail d'encadrement. Mais ici, on parle de soutenance.
Voilà.
Si nous voulons une école doctorale compétitive, sous-régionale de qualité, il faut qu'un Ivoirien vienne à la soutenance. Il faut qu'un Burkinabé vienne à la soutenance pour donner son point de vue. Il faut qu'un Sénégalais vienne. La question est là. Donc la soutenance, ce n'est pas l'école doctorale. Ce n'est pas les enseignants de l'école doctorale qui sont responsables de la soutenance. La soutenance doit s'extérioriser pour avoir une valeur académique internationale. Une soutenance où seulement les gens qui sont ici participent, c'est une soutenance qui n'est pas valide au CAMES. Il faut au moins un professeur de rang A de l'extérieur à l'école doctorale. Donc, c'est pourquoi je pense, je suis d'accord avec vous, que dire à l'étudiant de payer 1 200 000 que c'est trop. Mais disons que les laboratoires vont être là. Si le laboratoire sait qu'il ne peut pas accompagner un étudiant, il ne prend pas l'étudiant.
C'est clair.
C'est très clair.
Donc, si moi, les laboratoires vont payer 1 million de ça.
Oui, je suis d'accord avec toi que la façon d'écrire peut créer des confusions. Mais si le laboratoire accepte d'inscrire quelqu'un, ça veut dire que le laboratoire a les moyens d'accompagner celui-là à la soutenance. Et je dis, l'accompagnement, il est financier, essentiellement.
Monsieur Diko, pour clore ce chapitre.
Pour clore le chapitre, oui. Mon collègue Ali fait une confusion entre l'encadrement et la soutenance. C'est deux moments distincts. Les primes que nous recevons en vertu du décret de 2017, c'est des primes d'encadrement.
Y compris les soutenants.
Non, primes d'encadrement.
Je vais lire les passages.
Ok, non, primes d'encadrement. Et donc, ça, c'est des primes qui ont même été fixées en 2017, bien avant la création de l'école doctorale. Si demain, un membre du jury doit venir d'un autre pays, c'est l'école doctorale ou le labo qui va payer. Nulle part, ce n'est dit que c'est à la charge du doctorant. Qu'ils disent que 200 000 francs CFA, que c'est élevé pour un étudiant, je peux le comprendre. Qu'ils disent que les labos doivent, comme Morikel l'a dit, se battre pour avoir des financements et prendre en charge les masterants, c'est ce que je peux comprendre. Mais de dire qu'il ne faut pas payer les frais de soutenance parce que c'est ceci, c'est cela, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que, en fait, de toute façon, les encadreurs sont souvent différents. Ils ne sont pas seulement eux qui soutiennent. Un jury est composé minimum de 5 personnes. Minimum 5 personnes, c'est ce que l'arrêté dit, c'est ce que le règlement intérieur dit. Ces 5 personnes-là, on peut les prendre parmi des personnes qui n'ont pas, qui ne sont même pas de l'université. Il faut bien le rétribuer pour lire une thèse de 400-500 pages. Ça, c'est un élément important. La question de dire, oui, l'université est en train de marchander, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout. Lui, il intervient à l'école de maintien de la paix. Le master coûte là-bas 5 millions.
Comme expert.
Non, pas toi, mais les gens payent 5 millions pour le master.
On va on est juste à 5 minutes de la fin de l'émission pour clore vraiment l'émission. Monsieur Diko, qu'est-ce que cette nouvelle école doctorale va apporter à l'État? Qu'est-ce que ça va apporter aux futurs doctorants?
Bon, l'école doctorale va donner la possibilité à n'importe quel Malien et puis bon, même à nos collègues de la sous-région, d'inscrire des Burkinabés, en tout cas des étudiants originaires de Liomoua, par exemple, pourront s'inscrire à l'école doctorale. Donc ça donne la possibilité aux doctorants maliens de faire leur thèse au Mali à moindre coût, parce que les frais d'inscription, ce sont 15 000 francs CFA par an, les frais pédagogiques, c'est 100 000 francs. Donc 2022-2023, ils vont payer 175 000. 2023-2024, ils vont payer 175 000. 2024-2025, ils vont payer 175 000. C'est lorsque les soutenances vont être annoncées. C'est dans 3 ans, finalement, que donc, ce combat qu'on est en train de mener pourra éventuellement permettre de prendre en charge les soutenances de X et de Y. Donc ça va permettre à l'État d'avoir des cadres qui sont formés par des cadres maliens et sur le territoire malien.
Monsieur Mourike Dambélé, qu'est-ce que vous avez ajouté? Qu'est-ce que cette nouvelle école va apporter vraiment au système éducatif malien? Quel crédit est-ce qu'on pourrait accorder à cette nouvelle école?
Bon, on a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir que cette nouvelle école doctorale va combler les vides en termes de formation, en termes de qualité de formation. Et il faut dire que dans cette école doctorale, ce que moi je pense, il faut renforcer les capacités d'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut faire des collèges d'encadrement. C'est le seul reproche que j'ai pu faire au texte. C'est-à-dire qu'un seul qui encadre, il y a une qualité. Mais quand c'est deux personnes qui encadrent le même étudiant, l'étudiant n'a plus de possibilités. Et c'est cela qui est en vogue maintenant en Europe. On a des collèges d'encadrement. Ça, il faut insister sur ça. Le deuxième élément, il faut vraiment qu'il y ait de la qualité. Et la qualité a du prix. Il faut mettre du prix pour qu'on puisse faire des formations de qualité. C'est vrai, les étudiants, ils sont ceci ou cela. L'État peut intervenir. Je crois que l'État doit pouvoir prendre les meilleurs masterants.
On est pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Ali Tungara, pour clore, qu'est-ce que cette école pourrait apporter au système éducatif malien et au futur doctorat?
L'État, il va exclure les pauvres, ça coûte sûr, parce que 1 200 000, rien que le frais de la soutenance.
Oui.
Si c'était le cas, moi, je n'allais pas devant vous. Cette école doctorale s'inscrit dans ce qu'on appelle, en sens social, la reproduction sociale. Vous êtes agriculteur, monsieur, vous allez mourir agriculteur. Vous êtes fils d'un paysan, monsieur, madame, vous êtes condamné à l'être. Je pense que ça, on est quand même dans cette dynamique. Et en dernière instance, il est extrêmement important qu'on comprenne qu'attention, les charges afférentes à la thèse, dans toutes les universités sérieuses, je fais une bonne partie de l'Europe, le Canada, les États-Unis, je sais de quoi je parle, ce sont les laboratoires qu'on endosse et non l'étudiant comme objet marchand. Il est la responsabilité de l'État du Mali au nom de l'article 39, le statut qui nous régit, nous, en sciences supérieures et de l'enseignement supérieur. thèse, mémoire, projet de fin d'études, projet de recherche, on n'est pas payé pour ça parce qu'elles font partie de ce qu'on appelle l'indemnité spéciale. C'est pas moi qui ai inventé, j'ai trouvé ce texte devant moi. Donc, dire que...
C'est la fin de ce débat voilà. Dont le thème était « Nouvelle école doctorale au Mali, quel apport à l'enseignement supérieur et à la recherche ?» Nos invités étaient professeur Brima Elidiko, membre de la commission d'opérationnalisation de la nouvelle école doctorale, docteur Ali Tungara, universitaire, et professeur Mourike Dambélé, pédagogue. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission à la partie technique qui avait Gagné Kanté et Mamadou Ouattara. Le débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. On s'est dit à demain.